Bonjour à tous. Cette semaine, nous partons à la recherche de la confiance perdue, une notion devenue omniprésente ces dernières années dans les discours sur l'économie, et plus encore aujourd'hui, à l'heure où l'incertitude menace notre foi en l'avenir. La confiance, au fondement de notre société marchande, est-elle indispensable à la croissance? Nous poserons la question demain à l'économiste Yann Algan. Jeudi, on s'intéressera à la confiance dans l'entreprise avec l'historien Joanne Chapoutot. Mais d'abord, essayons ensemble de retrouver espoir en l'économie avec l'un de ses grands penseurs, André Orléans. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Qu'est-ce que l'économie peut nous dire de la confiance? Nous allons en parler avec André Orléans, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la monnaie. En fin d'émission, un journal hautement digne de confiance vous sera présenté par Xavier Martinet.
Confiance, crois en moi. Que je puisse veiller sur toi. Attention, va descendre. Fais un son sans méfiance. Je suis là. Aie confiance.
L'état de la prévision à long terme, sur lequel nos divisions sont fondées, ne dépend pas seulement de la prévision la plus probable qu'on peut en faire. Il dépend aussi de la confiance avec laquelle on la fait, c'est-à-dire de la probabilité que l'on assigne au risque que sa prévision, la mieux établie, se révèle tout à fait fausse. Lorsqu'on s'attend à des changements profonds, mais qu'on est très incertain quant à la forme précise qu'ils revêtent, on n'a qu'un faible degré de confiance. L'état de la confiance, comme disent les hommes d'affaires, est une chose à laquelle ils prêtent toujours l'attention la plus stricte et la plus vigilante. Mais les économistes ne l'ont pas analysé avec soin et se sont contentés le plus souvent d'en disputer en termes généraux. En particulier, ils n'ont pas mis en lumière que son incidence sur les problèmes économiques vient de l'influence considérable qu'elle exerce sur la courbe de l'efficacité marginale du capital. Il n'y a pas deux facteurs distincts agissant séparément sur le flux d'investissement, l'un étant la courbe de l'efficacité marginale du capital et l'autre l'état de la confiance. L'état de la confiance intervient parce qu'il est un des facteurs principaux qui gouverne cette courbe, laquelle est la même que la courbe de la demande de capital. Bonjour André Orléans.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez sans doute reconnu cet extrait de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes. Keynes est l'un des premiers penseurs de l'économie à réfléchir véritablement à cette notion de confiance.
Oui, tout à fait. Et il lui donne même une importance très grande, comme vous le voyez, puisque pour lui, en quelque sorte, l'investissement, qui est quand même la variable macroéconomique essentielle, dépend de quoi ? Elle dépend des prévisions des entreprises, de la manière dont ils anticipent leurs profits, dont ils anticipent la demande. Et Keynes est très sensible au fait que ce type d'anticipation et de prévision ne peut pas être mathématiquement précise. Elle est forcément imprécise parce que justement le monde est incertain. Et donc il comprend que dans ce rapport au fond de l'entreprise à son monde extérieur, il y a quelque chose qui échappe au calcul et, comme il le dit, qui est plutôt de l'ordre de la confiance. Donc selon que les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs auront une vision positive ou négative du futur, donc selon qu'ils auront confiance ou non, eh bien ils vont investir ou non. Et ce qu'il comprend aussi, c'est que cette variable a beaucoup d'importance parce qu'elle peut en quelque sorte s'auto-réaliser. Par là, il voulait dire que si jamais les entreprises sont dans un climat de confiance positive, eh bien elles vont investir, et en investissant, elles vont créer la croissance qu'elles étaient en train d'anticiper. Et ça serait le contraire si elles étaient pessimistes. Donc pour Keynes, cet état de confiance qui ne se réduit pas à du calcul est tout à fait essentiel. Et d'ailleurs, dans cette citation, il fait référence aux pratiques des entrepreneurs. C'est pas lui qui l'invente, il l'observe. Simplement, jusqu'alors, cet état de confiance, comme il l'appelle, n'avait pas beaucoup d'importance. Les économistes n'arrivaient pas à l'intégrer.
Alors justement, on va y venir, André Orléans, mais d'abord, ce qui est très intéressant avec Keynes, c'est que la confiance ou la défiance, c'est un phénomène mimétique. On l'observe à la bourse, par exemple. C'est ce qu'il explique en passant par la métaphore du concours de beauté. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Oui, alors en effet, ces phénomènes qui sont en fait des phénomènes collectifs et sociaux, on les observe donc, comme on vient de dire, à propos de l'investissement, mais on les observe aussi et peut-être encore plus nettement dans les phénomènes boursiers. Parce que dans les phénomènes boursiers, à nouveau, prévoir, savoir si les cours vont monter ou pas, ne peut pas se réduire à un calcul. Et à nouveau, ça dépend beaucoup de ce que les investisseurs vont faire, de ce que le marché va faire, d'où des tendances au mimétisme, parce qu'on aura tendance, comme on ne sait pas très bien calculer, on va prendre appui sur ce que font les autres, sur ce que fait le marché, pour soi-même se faire sa propre idée.
Et il s'agit moins dans un concours de beauté de juger qui est peut-être la femme ou l'homme le plus beau que de juger qui est le plus beau ou la plus belle selon ce que pensent les autres.
Exactement. Donc son idée, c'était, vous avez raison de le rappeler, c'était dans ce concours de beauté, c'est il faut trouver une plus belle photographie, disons, pour simplifier. Et celui qui gagne le concours, comme sur les marchés financiers, c'est pas celui qui trouve en quelque sorte la vraie plus belle photo, mais celui qui trouve ce que les autres vont décider qu'être la plus belle qu'est la plus belle photo. Et voyez, c'est un peu comme ça dans les marchés financiers. Vous ne gagnez pas forcément à avoir trouvé la vraie valeur. Vous gagnez si vous arrivez à anticiper justement ce que fait le marché, même si le marché se trompe. Donc, il y a cet aspect tout à fait autoréférentiel dans la finance qui conduit à ces phénomènes mimétiques. Il sera plus rationnel, en quelque sorte, de suivre le marché de façon à découvrir quelle est l'opinion du marché qu'à faire des calculs qui, pour être très savants, peuvent être complètement déconnectés de l'opinion du marché.
Et ainsi, il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul.
Tout à fait. Absolument. Il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison seul. C'est particulièrement vrai sur un marché. Ça veut dire que si vous pensez à une certaine valeur et qu'elle soit vraie, mais que vous êtes le seul à penser, eh bien, vous risquez de perdre beaucoup d'argent tant que le marché ne s'est pas retourné. Donc, il y a ces effets mimétiques très puissants.
Comment expliquer, André Orléans, pour reprendre les mots de Keynes, que les économistes n'aient pas analysé la confiance avec soin et se soient contentés le plus souvent d'en disputer en termes généraux ?
Eh bien, la raison, c'est celle que j'indiquais tout à l'heure, c'est que le domaine de l'économie, c'est la calculabilité, c'est la rationalité. Et là, on a des phénomènes qui échappent à la calculabilité. Donc, l'économiste est très mal à l'aise avec ses outils traditionnels pour les penser. D'ailleurs, il y a même un grand économiste, Oliver Williamson, qui a eu le prix de la Banque de Suez en 2007, je crois, qui disait que on n'avait pas besoin, en fait, il fallait pas utiliser le terme confiance parce que ce qui compte, c'est le calcul. Et quand on peut calculer, alors c'est du calcul et c'est pas du tout de la confiance. Et donc, il voulait qu'on abandonne le terme de confiance. Et je crois que ça exprime assez bien la difficulté qu'a la théorie économique la plus mainstream par rapport à la confiance, qui est un phénomène qui échappe strictement parlant à la calculabilité. Et c'est exactement le point de vue de Keynes.
Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un concept, effectivement, qui ne vient pas de l'économie, qui appartient davantage aux sciences sociales, André Orléans.
Oui, exactement. Et pour les raisons que je viens d'indiquer.
C'est un phénomène collectif que l'économie a du mal à appréhender. Alors tout de même, il y a un certain nombre d'économistes qui se sont intéressés à la confiance. On a parlé de Keynes. On peut aussi parler de Kenneth Arrow, qui a reçu le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, et qui, après Keynes, est l'un des plus grands contributeurs à cette réflexion sur la confiance en économie, André Orléans.
Oui, c'est ça. Kenneth Arrow, en fait, dans un livre qui s'appelle The Limits of Organization, Les Limites de l'Organisation, a été un de ceux, dans le courant économique orthodoxe, de souligner quoi ? de souligner que la confiance était un facteur indispensable du bon fonctionnement des économies. C'est-à-dire, il a montré même plus d'ailleurs, la confiance pour lui c'était un des cas parmi d'autres qui étaient, disons, les valeurs, le fait d'être honnête, le fait de respecter sa parole. Il y a tout un nombre comme ça de valeurs, ce qu'il appelait lui les institutions invisibles, qui ont pour effet de faire que les économies de marché fonctionnent très bien et soient beaucoup plus efficaces quand elles peuvent disposer de ces institutions invisibles. Donc Arrow, je dirais, n'a pas véritablement théorisé, c'est venu après, la notion de confiance, mais simplement il a mis, après Keynes, il a mis l'accent sur son importance fondamentale pour comprendre l'économie. Il n'y a pas que du calcul dans l'économie, il y a aussi de la confiance.
Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Arrow, c'est le manque de confiance qui explique le retard de développement économique de certaines sociétés.
Tout à fait, il va jusque-là, donc. Qui pense que ce sont en fait des facteurs tout à fait fondamentaux. Une société de défiance, eh bien, c'est une société dans laquelle les échanges sont forcément réduits parce que vous n'avez pas confiance. Donc, vous n'allez pas investir, vous n'allez pas échanger même avec des gens parce que vous n'êtes pas sûr qu'ils vont vous donner les bons produits au bon moment, qui vont respecter les contrats. Donc, il a effectivement mis l'accent sur le rôle très, très fondamental de la confiance, et je crois à juste titre, c'est-à-dire de montrer que, en quelque sorte, les économies de marché et les relations de marché ne sont pas autosuffisantes, mais qu'elles doivent s'encastrer, être appuyées sur des institutions culturelles plus profondes qui leur permettent de leur donner toute leur efficacité.
Donc, et vous n'utilisez pas le terme encastré pour rien, c'est une référence, j'imagine, à Polanyi.
C'est ça, mais c'est moi qui l'utilise, il ne l'utilisait pas ainsi. Mais en effet, c'est ça, c'est de dire Polanyi, c'est celui qui a bien compris cette notion du fait que l'économie ne pouvait pas être pensée seule, mais devait être pensée avec les institutions culturelles d'une société. Et Arrow avait tout à fait cette idée.
Et alors justement, c'est avec l'école de pensée institutionnaliste que la confiance va prendre toute sa place en économie, selon vous, André Orléans. Rappelez-nous peut-être, si vous le voulez bien, d'où vient ce courant de pensée qui s'appuie donc sur les institutions.
Ah ben, le courant est institutionnaliste, comme son nom l'indique, justement, essaye toujours de relier les questions économiques et les questions de rationalité aux questions, disons, plus générales, sociales, de rapports sociaux, et en particulier au travers des institutions. Donc, de penser que, par exemple, il n'y a pas un marché du travail ou bien un marché de la monnaie, il y a des marchés du travail et des marchés de la monnaie qui sont fonction de la manière dont les institutions les construisent. Et donc, l'institutionnalisme s'élève en faux contre cette idée, en quelque sorte, qu'il y a il n'y aurait qu'une seule forme idéale typique du marché. En fait, il faut décliner différentes formes de marché en fonction des contextes institutionnels, et ça peut avoir des effets très profonds sur le fonctionnement des économies. Donc, il faut tenir compte de ces institutions. C'est ça que, au fond, le message central des courants institutionnalistes.
C'est un courant de pensée qui est né notamment sous l'impulsion de Thorstein Veblen dans les années 20 aux États-Unis. Et il y a un économiste américain qui s'inscrit peut-être dans cette vision, André Orléans. C'est l'Américain David Krebs qui, à l'aide de la théorie des jeux, lui, va essayer de mettre en lumière le rôle de la confiance dans le processus de l'échange.
Non, David Krebs est tout à fait un orthodoxe et un économiste mainstream, mais lui, il vient de la théorie des jeux. Alors, la théorie des jeux, c'est une théorie qui s'intéresse beaucoup à la rationalité des acteurs. Et il a son apport à la théorie de la confiance était extrêmement intéressant parce que il a produit en quelque sorte une maquette intellectuelle, abstraite de ce qu'est la confiance interpersonnelle. Alors peut-être je peux raconter en une seconde
bien sûr.
Cette idée. Eh bien, pour penser la confiance, il dit, on pense en fait l'échange, on va penser, c'est très simple au départ, l'échange de deux individus, un individu A et un individu B qui veut échanger par exemple un livre contre un cahier. Et donc l'individu A, tous les deux ont envie de faire cet échange parce que chacun a envie de l'un d'un cahier, l'autre du livre, et ils seront bien mieux ainsi. Mais pour que cela se produise, il faut avoir d'abord que A donne le livre à B et puis dans un deuxième temps, que B rende le cahier à A. C'est ainsi que ça se passe. Or, notre Krebs, si on fait, si on pense ainsi l'échange de cette manière, et on doit le penser ainsi, il y a un moment donné où B se retrouve avec le livre et avec le cahier. Et donc la raison, désormais, il n'a plus véritablement de motivation pour rendre le cahier. Et il a tout intérêt à le garder. Et ce que dit Krebs, en fait, c'est assez juste, c'est que tous les phénomènes de confiance sont ce type-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir confiance, c'est, vient du fait que l'autre, autrui, va être en position, en fait, de tricher ou de prendre un avantage sur vous, mais que vous êtes obligé de courir ce risque, car sinon, il n'y a pas d'échange. Ainsi. Et en effet, pour juste finir cet exemple, ce que dit Krebs, c'est que si on se place dans cette situation, alors il n'y aura pas d'échange dans la situation que je décris. Pourquoi ? Parce que B, en effet, s'il est purement rationnel, et c'est ça l'hypothèse qu'on doit faire, si B est purement rationnel, il ne rendra pas le cahier, puisqu'il a déjà le livre, il n'a aucune raison de rendre le cahier. Et d'autre part, comme A, au coup précédent, saura que B va agir ainsi, A lui-même, en fait, n'aura jamais tendance à donner le livre dans un premier temps. Mmh. Et donc, on est dans une situation extrêmement pénible, extrêmement intéressante, où la rationalité individuelle devient un obstacle à la rationalité collective, parce qu'il est clair que les deux acteurs voulaient échanger, mais ils n'y arrivent pas en raison de la structure de l'interaction. Et donc, pour en sortir, c'est justement cette question de la confiance qui est posée. Comment A peut-il avoir confiance en B ? Comment B, même B lui-même, a envie que l'échange ait lieu ? Donc B doit essayer de convaincre A de lui dire mais donne-moi le livre et je te rendrai le cahier. Comment est-ce qu'il peut faire pour le convaincre ? S'il lui dit simplement « je te promets » comme ça, l'autre ne le croira pas. Donc il faut des mécanismes. Alors par exemple, un mécanisme qui est bien connu, enfin qui est en tout cas intellectuellement construit, c'est l'idée par exemple du serment.
Alors on va y venir, André Orléans, n'allons pas trop vite en besogne. Je voulais d'abord illustrer vos propos sur cette idée de la prise de risque au moment de la confiance avec cet extrait de La vérité si je mens, le film de Thomas Gilou qui est sorti en 1997. Willy, petit patron mafieux, n'aurait pas dû faire confiance au très peu fiable Serge Benamou.
Benamou ! Benamou ! Oh, Serge ! Voilà, où t'es, mon Serge ? Hein ? Benamou ! Ah, viens là, mon Sergio !
Maintenant, tu vas nous rendre notre oseille.
Je commence à compter jusqu'à 5. Ensuite, jusqu'à 4. D'accord. 1, 2,
3, 4.
Coupe. Vas-y, coupe, je vous perds jamais. Vous pouvez m'arracher les yeux ou me brûler la bite. Ça sert à rien, vous n'aurez pas un centime. Rien. Enfin, Willy, tu sais très bien que j'ai jamais rien rendu à personne. Hein ? Autant ça fait un bail que je l'ai dépensé.
Sans déconner, je savais que vous étiez mauvais, mais là, vous dépassez tout, hein ? Filer des chèques sans ordre à moi. Faut vraiment que vous soyez limite, hein.
T'apprends à bosser avec des nazes.
Écoute-moi bien, enculé. Si tu me payes pas, ta tête de chien, je l'arrache et j'en fais de la bouffe pour les poissons. Tu comprends l'histoire ? Je te lâcherai jamais. Tant que tu m'auras pas rendu mon oseille, je te pourrirai la vie. C'est compris ? Oui.
André Orléans, est-ce qu'on peut dire, à l'écoute de cet extrait, que La vérité si je mens a tout compris au jeu de la confiance, tel que David Krebs l'a théorisé ?
Ben, je pense oui, mais je pense que beaucoup de gens l'ont bien compris. On est souvent pris dans ce type de situation. On doit faire confiance à quelqu'un. Et tout le problème dans ce rapport avec A et B, c'est comment B peut convaincre A de rentrer dans la coopération. Et c'est pour ça que c'est si important, parce que l'action coopérative va dépendre des ressources que B va pouvoir mobiliser pour que A puisse échanger. Par exemple, ce qui dans les donc ça c'est tout très très concret. Ce qui se passe, c'est que par exemple A va pouvoir avoir confiance en B parce que B a une réputation, parce que B appartient par exemple à la même communauté nationale ou bien religieuse ou bien à des liens avec A de telle sorte que A sait que si jamais B ne respectait pas sa parole, ça lui coûterait beaucoup par rapport à l'ensemble des personnes avec lesquelles il échange lui-même souvent.
Alors c'est important ce que vous soulevez, André Orléans, cette idée de la réputation. C'est une valeur commune qui permet à l'économie de marché de fonctionner là où elle pourrait s'appuyer sur d'autres choses. Vous évoquiez avant l'extrait qu'on a entendu le serment, il y a aussi le contrat, voilà des valeurs qui permettent de placer la confiance dans l'échange, mais simplement la réputation, c'est véritablement ce qui va permettre à l'économie de marché de fonctionner.
Alors oui, d'abord expliquons bien, oui, parce que l'autre solution à notre jeu de confiance aurait été le contrat, c'est-à-dire que A et B signent un contrat en disant que je vais échanger un livre contre un cahier, et si jamais ce n'est pas respecté, alors il y a un juge qui va condamner B, par exemple, si B ne respectait pas sa parole. Simplement, ce système est assez lourd. Il demande un appareil judiciaire, il demande à pouvoir prouver ce qu'on dit, etc. Donc, vous voyez, ça peut jouer, mais on aimerait avoir quelque chose de plus fluide. Et les questions de réputation permettent de régler ça de manière plus rapide, car chacun sait qu'il appartient à tel milieu. L'exemple qu'on peut donner pour que vos auditeurs aient un peu quelque chose à l'esprit, c'est un exemple qui est donné par Williamson de deux fermiers. Un fermier voit son tracteur tomber en panne et a besoin absolument de faire sa récolte tout de suite. Et il voit un autre fermier et cet autre fermier va l'aider. Pourquoi est-ce qu'il l'aide ? Parce qu'il sait que le jour où lui-même aura besoin d'aide, il le demandera au fermier et l'autre sera conduit à le faire. Pourquoi ? Justement parce que c'est des petites communautés fermées, très soudées, dans lesquelles les notions de réputation sont extrêmement puissantes. Donc on voit comment une ressource ici sociale, c'est-à-dire les liens sociaux d'une petite communauté à travers le phénomène de réputation peut permettre de gérer beaucoup plus facilement des contrats, des collaborations que le fait l'appareil contractuel qui est beaucoup plus compliqué, juridique, etc. Et c'est aussi ce qui se passe, comme vous le savez, dans les mafias, par exemple. L'efficacité des mafias tient aussi à ça, c'est ce que les paroles sont respectées et il y a... voilà, ça
mais
permet
alors, de... Il y a le fait, pardon, de vous couper, André Léon, effectivement, d'essayer de susciter la confiance à un niveau interpersonnel. Et puis, il y a le fait de vouloir susciter la confiance au niveau collectif, à l'échelle d'un pays. Je voudrais vous faire entendre le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, parler de cette nécessité d'un retour de la confiance. Il était au micro de France Inter le 20 juillet dernier.
L'État, effectivement, la Banque centrale ont fait beaucoup. Mais aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire et surtout ne doit pas faire seul. Si vous voulez, il y a eu un bouclier public. Il était coûteux, mais il était nécessaire. Il faut passer aujourd'hui du bouclier public à la confiance privée. Notre pays a besoin de mesures de relance, ciblées, sélectives, bien choisies. Mais plus encore que de mesures de relance, notre pays a besoin d'un pacte de confiance avec les acteurs privés, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, qui sont les premiers moteurs de la reprise. On va sans doute en parler, c'est la confiance des ménages pour qu'ils mobilisent leur épargne accumulée pendant la crise, et c'est la confiance des entreprises pour que, avec leurs fonds propres, leur capital, ils puissent investir. Ça, c'est absolument clé maintenant pour la reconstruction.
Selon l'INSEE, la confiance des ménages est aujourd'hui à son plus bas niveau depuis décembre 2018. On était alors en pleine crise des gilets jaunes. Ce recul de la confiance est d'abord lié à l'incertitude sur l'avenir, André Orléans ?
Pas seulement, parce que l'avenir est souvent incertain. C'est vrai que là, il l'est particulièrement. Mais il est surtout lié à la défiance, au fait que les conditions économiques, pour parler de manière très générale de la situation aujourd'hui, sont telles que les acteurs souffrent, qu'on sait qu'il y a des inégalités, on sait qu'il y a des problèmes, un certain nombre de problèmes sociaux, etc. Donc, il y a une conjoncture, disons, qui ne crée pas un sentiment de confiance ni dans le gouvernement, ni dans, disons, l'économie. l'économie en général. Mmh. Et ça, ça explique beaucoup de choses. Et je crois que ça vient de loin, en quelque sorte. Ce climat de défiance, on l'observe aujourd'hui avec la crise sanitaire, parce qu'elle a des paramètres très, très particuliers qui vont dans ce sens-là. Mais elle reflète un contexte, un épisode historique qui date depuis un certain nombre de temps. Hein. On voit qu'il n'y a plus de... Le pouvoir d'achat pose beaucoup de problèmes, il y a du chômage, il y a de la précarisation. Donc je pense que ça arrive dans une situation d'une société.
Alors, on est en train de vous perdre, André Orléans, on ne vous entend plus très bien. Vous nous parlez de cette défiance actuelle, de ce recul de la confiance des ménages, mais est-ce que plus largement, André Orléans, les grandes crises économiques ne sont pas toujours des crises de confiance? Et ça, c'est par exemple ce qu'on a pu constater en 2008.
Oui. Les crises économiques sont des crises de défiance. Forcément, il y a cette dimension qui joue. Il faut bien voir d'ailleurs juste un point quand même, ici on a changé un peu de registre hein, entre la confiance interpersonnelle et la question de la confiance dans les institutions ou dans l'économie. On est passé effectivement d'un cadre interpersonnel avec les solutions que j'indiquais, à quelque chose qui est beaucoup plus vaste hein, et qui est plus difficile à saisir sur les ressorts, comment se construisent les représentations qu'ont les agents du gouvernement par rapport à leur passé, comme j'indiquais, etc. Donc il y a quelque chose ici qui est un peu différent quand même des concepts précédents.
Mais il y a vraiment cette idée de la part du gouvernement avec la création d'un indice de l'INSEE, d'un indicateur en 1958 pour mesurer justement la confiance des ménages. Il y a l'idée qu'on a besoin de connaître cela pour pouvoir faire des prévisions en économie à un niveau national, André Orléans.
Je pense que je ne suis pas sûr que ça ait été utilisé comme ça, mais je pense qu'en effet c'est tout à fait nécessaire. D'ailleurs, pour les raisons qu'indiquait le gouverneur tout à l'heure, c'est qui sont des raisons, disons, très proches de celles très keynésiennes, hein, très proches de celles que Keynes nous disait dans votre première citation tout à l'heure, c'est-à-dire que la question de l'investissement, la question de l'épargne, la question de la consommation est liée à la manière dont les agents se représentent le futur. Et donc, le phénomène de l'épargne de précaution est bien connu. Si vous êtes dans un état de grande incertitude, vous avez peur pour votre emploi, eh bien, vous allez avoir tendance à garder l'épargne et à peu consommer. Et si vous consommez peu, il y aura peu de croissance et donc il y aura des effets négatifs. Mmh. Donc, cette donnée est vraiment importante. Et on retombe en fait hein, sur notre conversation à propos des idées de Keynes.
Alors on va venir à la question de la monnaie, puisque pour vous, André Orléans, c'est l'institution sociale où le besoin de confiance se fait le plus fort. Alors comment se crée cette confiance dans la monnaie et quels sont les risques quand elle se détériore? On en parle dans un instant.
Moi j'ai confiance qu'on peut sortir, qu'on peut marcher encore. Moi j'ai confiance qu'on peut parler, qu'on peut être bien dehors. Moi j'ai envie d'être en vie, de parler encore plus fort. Et d'être avec mes amis qui me parlent des rivières du Grand Nord. Des grands torrents qui s'en viennent pour soulever, couler les champs. Mouiller les dents, noyer les larmes qui recouvrent nos parents. Mouiller la peur des caresses qui donnent peu en demandant. Foutre le bordel dans les lits qui pleurent d'être morts en boudant. Viens prends ma main, je te donne la mienne. Sans peine on part, on va plus loin. Ça sert à rien de fixer les traces derrière nos pas sur la fine glace. J'ai enfin retrouvé mes patins. Remets les tiens, je te donne la main. La vie est belle une fois chez elle. Chaud dans ses bras, je n'ai plus peur d'elle. Chaud dans ses bras, même si on gèle. Vu avec elle, je t'offre mes ailes. Confiance qu'on peut
Simon, moi j'ai confiance sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, suite de notre entretien avec l'économiste André Orléans sur les liens entre confiance et économie. Alors là où la confiance joue un rôle particulièrement crucial, c'est dans la monnaie. Pour quelle raison, André Orléans? Est-ce que c'est parce que la monnaie, c'est avant tout un contrat social?
Alors, la raison est la suivante, et qui différencie la confiance dans la monnaie des phénomènes de confiance interpersonnelle dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est en raison des effets d'autoréalisation. C'est bien ça qu'il faut comprendre, qui est compliqué. C'est-à-dire que, on l'a vu dans le cas de Keynes, le fait d'avoir une certaine appréhension, une certaine anticipation du futur a des effets quant à la situation réelle qui se passe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les effets d'autoréalisation. Et ils ont lieu lorsqu'on est à ce niveau collectif qui est celui de la monnaie ou bien qui est celui des crises financières. Dans une crise financière, c'est aussi une crise de confiance. Dans lesquelles, par exemple, sur un certain marché boursier, vous allez anticiper des pertes et cette anticipation fait que vous allez vendre et que donc vous allez entraîner les baisses que vous anticipiez vous-même. Donc, c'est ces phénomènes-là qui sont très importants. Alors, pour ce qui est de la monnaie, le point important, c'est que la monnaie est en quelque sorte une des institutions, certainement peut-être même l'institution fondamentale de l'économie de marché. Hein, c'est celle qui détermine ce que les choses valent, combien on gagne, c'est celle qui détermine les comptes, etc. Donc c'est un objet social, un bien collectif extrêmement précieux et que, dans son fondement, cette monnaie est toujours liée à de la confiance. En fait, on pourrait dire, et je ne suis pas le premier à le dire, que la monnaie, c'est essentiellement de la confiance. Une monnaie ne vaut qu'à travers la confiance qu'on lui porte. Dans le passé, cette idée était moins forte parce que, comme il y avait des monnaies métalliques, on pensait que la monnaie était désirée en raison de son métal et qu'elle était intrinsèquement précieuse. Et donc, en quelque sorte, il n'y avait pas besoin de confiance puisque le métal valant par la monnaie. Mais en fait, c'est un peu inexact, c'est-à-dire c'est toujours le fait que...
Alors, on va essayer de rétablir la connexion, André Orléans, parce qu'on a...
à reconnaître dans ces métaux la monnaie.
On a quelques difficultés à vous entendre. On va essayer de rétablir la connexion tout de suite. Et entre-temps, je voudrais vous faire entendre et faire entendre aux auditeurs un texte du sociologue allemand Georg Simmel, puisqu'effectivement, vous n'étiez pas le premier à parler de cette question de la croyance dans la monnaie. Écoutez cet extrait de La philosophie de l'argent, paru en 1900. De même que sans la confiance des hommes les uns envers les autres, la société tout entière se disloquerait, de même sans la confiance, la circulation monétaire s'effondrerait. Toutefois, cette confiance se nuance d'une certaine façon. En effet, l'économie monétaire n'est pas la seule à reposer sur une telle croyance. C'est le cas pour toute l'économie, quelle qu'elle soit. Si l'agriculteur ne croyait pas que son champ va porter des fruits cette année comme les années précédentes, il ne sèmerait pas. Si le commerçant ne croyait pas que le public va désirer acheter ses marchandises, il ne se les procurerait pas, etc. Cette sorte de foi n'est rien d'autre qu'un savoir inductif atténué. Mais dans le cas du crédit, de la confiance en quelqu'un, vient encore s'ajouter un moment autre, difficile à décrire, qui s'incarne de la façon la plus pure dans la foi religieuse. Quand on dit que l'on croit en Dieu, il ne s'agit pas seulement d'un degré imparfait dans le savoir relatif à Dieu, mais d'un état d'âme qui ne se situe absolument pas dans la direction du savoir. C'est d'un côté assurément moins, mais de l'autre bien davantage que ce savoir. Selon une excellente tournure, pleine de profondeur, on croit en quelqu'un, sans ajouter ou même sans penser clairement ce que l'on croit en vérité à son sujet. C'est précisément le sentiment qu'entre notre idée d'un être et cet être lui-même existe d'emblée une connexion, une unité, une certaine consistance de la représentation qu'on a de lui. Ainsi, le sentiment de sécurité personnelle qu'assure la possession de l'argent est peut-être la forme et l'expression la plus concentrée et la plus ambiguë de la confiance dans l'organisation et dans l'ordre étatico-social.
Thank you.
André Orléans, pour Georg Simmel, on croit donc à la monnaie comme on croit en Dieu ?
Oui, cette citation est tout à fait exceptionnelle, d'autant qu'il écrit en 1907, c'est-à-dire à une époque de monnaie métallique. Et lui, il comprend tout à fait que ce lien, comme il le dit dans la dernière phrase, la confiance, l'expression la plus concentrée et la plus aiguë de la confiance dans l'organisation et dans l'ordre étatico-social. C'est en effet, dans le rapport à la monnaie, se joue quelque chose de très profond dans notre rapport au monde, dans notre existence au monde. On a absolument besoin dans nos économies de monnaie. On est défini par la monnaie. La monnaie intervient de multiples, il n'y a pas que ça, mais ça intervient dans de multiples activités. Et donc, ce qu'il comprend, c'est que, à nouveau, ça nous ramène à notre point de départ, c'est que ce n'est pas uniquement du calcul, ce n'est pas uniquement fondé sur du calcul, et c'est fondé sur autre chose. Et c'est ça qu'il met bien, lui, en évidence, de dire qu'au fond, la confiance qu'on a dans la monnaie, ça plutôt du genre de la foi religieuse, d'une espèce de quelque chose de très profond qui nous lie à l'objet et qui fait que nous ayons... que nous croyons, qu'est-ce que dire avoir confiance dans la monnaie, c'est-à-dire penser que cette monnaie d'abord va être stable, que cette monnaie va avoir des bons effets sur l'économie et sur nous, sur le bien-être, etc. Donc il y a un rapport ici très profond à la monnaie et qui est surtout tellement essentiel dans nos économies puisque tout repose du point de vue de l'économie sur la monnaie.
Et cette confiance prend différentes formes, André Orléans. Il y a d'abord la confiance de l'habitude, c'est celle qu'évoquait Georg Simmel dans le texte que l'on vient d'entendre, quand il parle de l'agriculteur qui croit que le soleil se lèvera demain.
C'est ça. Donc on voit qu'il y a différentes formes de confiance. Il y a cette première forme de confiance, on pourrait dire un peu atténuée, dont il parle au départ en disant que c'est un savoir inductif, donc celle du fermier qui pense que tous les ans il y aura des récoltes. Donc voilà, c'est assez simple. Mais en effet, on peut distinguer différentes formes de confiance. Et ça, c'est un résultat important justement du courant institutionnaliste. Hein, et je dois citer ici Michel Aglietta et Bruno Terray qui ont beaucoup œuvré à la compréhension de ce phénomène de confiance monétaire et nous avons montré qu'en fait qu'on pouvait considérer qu'il y a trois formes de confiance et peut-être je peux vous les indiquer. D'abord ce qu'on appelle nous la confiance méthodique, c'est-à-dire celle dont on vient de parler, c'est celle qui est liée à la répétition des échanges, donc on a confiance parce que hier on a pu acheter, aujourd'hui on achète, etc. Donc on est dans la répétition des échanges les plus communs. Et puis il y a une confiance qu'on appelle hiérarchique, qui est la confiance dans le pouvoir, à savoir la banque centrale, qui manipule et qui crée les billets, par exemple, qui les produit, ou bien qui œuvre au fait que les réponses à des chocs soient bien, etc. Donc ça, c'est la confiance hiérarchique. Et puis, il y a une troisième forme de confiance, qui pour nous est plus importante, mais qui est plus difficile à saisir, ce qu'on appelle la confiance éthique, c'est-à-dire que c'est l'idée que derrière la monnaie, il n'y a pas simplement la répétition des échanges, il n'y a pas simplement cette confiance dans le pouvoir de la banque centrale, mais il y a aussi une confiance dans un projet social, économico-politique que la monnaie exprime. Et ça, c'est une des choses évidemment les plus importantes dans la confiance monétaire, qui est cette confiance éthique.
Quels exemples on peut donner à ce sujet ? Parce qu'il faut dire que c'est les représentations liées à ce type de confiance éthique dont vous parlez, André Orléans, varient d'une époque à l'autre et d'un pays à l'autre.
Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait. Il faut le prendre d'un point de vue historique. Ça dépend des nations, des conjonctures, des communautés. Mais c'est l'idée que derrière une communauté, pour que la communauté fasse communauté, et pour ce qui est de la monnaie, on voit bien que c'est nécessaire, puisqu'il y a bien une acceptation générale de la monnaie par tous. Donc que pour cette communauté fasse communauté, eh bien, elle doit se représenter et adhérer à un certain nombre de valeurs, de projets qui sont derrière la production de la monnaie. Donc ces projets, ça peut être peuvent être différents. Ça peut être par exemple la croissance, le la lutte contre le sous-emploi et le chômage. Ça peut être un projet, par exemple, ça pourrait être un projet écologique si la gestion monétaire se transformait dans ce sens-là. Donc ça dépend de en fonction des contextes économiques et des contextes politiques. Ça va varier en fonction des situations.
On va prendre un exemple, André Orléans, dans l'histoire, puisque aujourd'hui, on voit que le gouvernement espère provoquer un choc de confiance afin de relancer l'économie. Et il se trouve que ça a déjà eu lieu dans le passé, grâce à l'arrivée au pouvoir de Raymond Poincaré dans les années 20. La France traverse alors une tempête économique.
Ce paquebot balayé par les vagues n'est autre que notre France en pleine tourmente financière. La tempête ne serait rien, dit un vieux loup de mer, si le bateau n'était pas si chargé et s'il était mieux arrimé. La charge annuelle de la France est déjà bien lourde. Et aux charges du dedans, on va ajouter les charges du dehors. Encore faudrait-il que le franc n'aille pas en diminuant. Et les passagers dans le salon se disputent. Non, ce ne sont ni les écoles de droite ni les écoles de gauche qui nous sauveront. C'est la seule école du bon sens. Il faut avant tout de l'ordre. Et puis, il faut que tous les Français travaillent d'un même cœur à aveugler la voie d'eau qui risque de faire sombrer notre France. L'équipe qui gouverne la France doit ressembler à l'équipe de ce bateau. Il ne faut que des hommes dévoués et expérimentés. Alors, malgré la tempête, notre France rentrera au port et reprendra sa place à la tête des autres nations.
L'arrivée au pouvoir de Raymond Poincaré en juillet 1926, en pleine tempête économique, va entraîner ce qu'on a appelé ensuite un miracle monétaire. Comment expliquer ce soudain retour de la confiance, André Orléans ?
Et je crois que je me suis beaucoup intéressé à ces miracles monétaires parce que justement ils sont très illustratifs de tout ce dont on parle ici, c'est-à-dire du fait que le corps collectif peut adhérer de manière soudaine et de manière violente à certaines idées, à une certaine monnaie à un moment donné. Et ce qui est intéressant dans ces miracles, c'est la brutalité en quelque sorte du processus. Il se fait en quelque sorte sur des symboles. Dans le cas de Poincaré, on est à une période en fait de grande crise en France, hein, où il y a une dépréciation de la monnaie tout à fait importante. Hein, on est en 1926, donc depuis 1919, la monnaie a perdu 9 dixièmes de sa valeur, par exemple, par rapport à la livre sterling. On est dans des périodes d'inflation, dans des périodes de problèmes de financement du Trésor. Donc il y a une conjoncture extrêmement difficile. Et le retour de la confiance se fait sur le nom de Poincaré, mais évidemment derrière le nom de Poincaré, il y a une certaine politique qui est une politique tout à fait de droite et en faveur des intérêts financiers. Et cette politique produit une rupture du jour au lendemain. La dépréciation de la monnaie, l'inflation s'arrête sans qu'il y ait au départ de quelconque mesure technique. C'est juste un phénomène de psychologie collective. Il y a un retournement de l'opinion qui adhère. Il adhère à quoi, là? Il adhère à un certain projet politique, qui est celui de Poincaré. D'autant que Poincaré, c'est aussi le président qui a amené à la victoire lors de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a un certain nombre d'attributs symboliques qui font que Poincaré va d'un seul coup produire cette polarisation de l'opinion sur cette nouvelle politique.
Et est-ce qu'on ne retrouve pas un équivalent aujourd'hui avec les prises de parole de la Banque Centrale Européenne, André Orléans, qui sont toujours très attendues? Là, en l'occurrence, Christine Lagarde devrait annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'économie ce jeudi, lors de la dernière réunion de politique monétaire de l'année pour la BCE. Alors, le marché est un petit peu suspendu à ces annonces. Et on se souvient que Mario Draghi, au moment de la crise financière de 2008, dans le sillage l'image de la crise financière de 2008, c'était la crise de la dette. Et à ce moment-là, Mario Draghi avait dit le fameux « whatever it takes », dont on considère qu'il a sauvé l'euro. Est-ce que vous verriez des équivalences, André Orléans, entre l'épisode des années 20 et aujourd'hui ?
Et d'abord, il faut dire que constamment, le banquier central est dans son rôle, en fait, d'essayer à travers ses discours d'influencer et de produire de la confiance. Je dirais que c'est structurel. D'ailleurs, c'est théorisé par les économistes et les banquiers centraux qui savent bien que leur communication est extrêmement importante. Donc, constamment, il y a cette idée de pouvoir produire de la confiance. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas, ça ne se fait pas de manière mécanique. Il faut que les conditions, un certain nombre de conditions sociales qui soient réunies pour qu'on puisse produire de la confiance. Donc, c'est par exemple dans le cas Poincaré, on est dans une situation très très particulière, par exemple de tension politique entre le cartel des gauches qui n'arrive pas à mener de politique véritablement cohérente, et donc le choc de confiance est lié aussi à un fort clivage droite-gauche qui va permettre le miracle. Bon, aujourd'hui chacun comme je le disais, le banquier central est dans son rôle d'essayer
il l'est moins en rachetant massivement les dettes émises par les gouvernements européens, ou du moins ce n'était pas dans les prérogatives de la BCE au départ, André Orléans.
Oui, c'est absolument. Mais ça, je dirais, c'est que c'est plus du point de vue de la technique financière que de la question, disons, plus générale de la confiance. C'est vrai que ça a des effets sur la confiance, dans la mesure où toute cette question de la dette est évidemment tout à fait importante, mais aussi c'est à travers le mécanisme lui-même de financement de la dette qu'ainsi est produit le résultat. Donc on n'est pas dans le cas des miracles monétaires, c'est leur intérêt, c'est que ce sont des effets symboliques dans lesquels il n'y a pas encore d'effet technique, d'effet politique. Et donc ça se produit juste sur le nom de Poincaré. On ne doit pas attendre qu'il ait changé les impôts ou je ne sais quoi. Tandis que dans le cas qu'on cite, c'est évidemment la politique de Draghi concrète qui va changer les taux d'intérêt sur la dette. Donc c'est un peu différent, même si cette composante est toujours présente. Parce que la monnaie étant un fait de confiance, la gestion de la monnaie est toujours une gestion de la confiance, c'est-à-dire une gestion de l'adhésion à cette monnaie. Il faut noter que les publics auxquels s'adresse la BCE peuvent être assez différents et segmentés. Il y a les publics qui sont l'État, en quelque sorte, les États européens. Il y a le public qui sont les gens de la finance, qu'on essaye de convaincre. Il y a aussi le public des économistes et le grand public. Donc il y a différents aussi publics qui sont les cibles de la communication.
On arrive presque au terme de cette discussion, André Orléans. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour relancer la confiance dans notre pays ? Lancer et permettre ce choc de confiance que le gouvernement espère provoquer ?
Je pense que on ne pourra pas provoquer, à mon sens, pour provoquer un choc de confiance, il faut des modifications profondes dans la politique économique qui est suivie, puisque comme je l'indiquais au départ, une des raisons de la défiance, les raisons de la défiance sont des raisons de long terme, à mon sens. C'est comme ça que je vois les choses, sur la montée des inégalités, sur la précarisation, sur une sortie de politique. Donc à mon sens, il ne peut pas avoir de choc de confiance. C'est pas un outil comme ça magique qu'on peut utiliser tout le temps. Il faut vraiment des conditions très très particulières pour que il y ait une adhésion de la population à une monnaie. Je crois pas beaucoup. Je crois que il faudrait des transformations politiques assez importantes dans la conception même de la monnaie.
Ne croyez pas, par exemple, qu'une annulation de la partie de la dette publique qui est détenue par la BCE, par exemple, comme le demande un certain nombre de personnes, serait susceptible de provoquer ce choc de confiance au niveau européen ?
Non, je pense, bon, je sais, ça, effectivement, ce serait, enfin, c'est toujours difficile de prendre position sur des questions comme ça, parce que on a peu de recul, il est vrai que ça aurait un effet symbolique assez puissant. Ça, je dois le reconnaître. Mais si on pense cette fois-ci à lui seul, en quelque sorte, il suffirait pas, parce que d'abord, au fond, l'annulation par rapport à la situation actuelle ne produit pas de différence. Pour l'instant, la dette est dans l'actif de la Banque centrale et il n'y a pas de taux d'intérêt, enfin, etc. Elle ne coûte rien, donc du point de vue strictement macroéconomique, il n'y aurait pas d'effet.
Mais du point de vue symbolique.
Voilà, l'effet serait symbolique, et il me semble que pris comme ça uniquement en lui-même, c'est-à-dire uniquement l'annulation de la dette, ça ne suffirait pas, parce que les difficultés sont d'une autre nature.
Et ce qui est bien sûr, c'est que la politique monétaire ne peut pas fonctionner seule, et le problème, c'est que du côté de la politique budgétaire, les choses sont bloquées. On sait que le plan de relance de l'Union européenne est toujours bloqué à cause d'un veto de la Pologne et de la Hongrie. Mais c'est un tout autre sujet. Un grand merci, André Orléans, de nous avoir accompagnés tout au long de cette passionnante émission. On mettra les références de vos ouvrages sur la monnaie, sur la page de l'émission, sur franceculture.fr. Un grand merci.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Et c'est l'heure pour nous de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Du paracétamol français d'ici à 3 ans, c'est l'une des promesses phares des mesures de relocalisation prévues dans le plan de relance à 100 milliards d'euros. Vraie opportunité ou nouveau mirage, la longue marche vers les usines du Made in France est loin d'être finie.
Et oui, Tiffaine, vous vous rappelez qu'en mars, la presse spécialisée parlait d'électrochoc pour l'industrie française, la deuxième la plus affectée en Europe et qui découvrait de manière cuisante sa dépendance aux importations étrangères, médicaments en tête, d'où un soutien étatique sans précédent. C'est un tiers des 100 milliards d'euros, d'abord pour endiguer une vague de délocalisation, mais surtout pour relocaliser celles qui pouvaient l'être, circuits courts, marchés stratégiques ou d'avenir. Et les entreprises, c'est vrai, montrent un réel appétit, plus de 1600 projets pour les territoires d'industrie, ce sont des aides à la reconversion de friches et à la numérisation, la version locale du plan, et puis aussi surtout de plus de 3600 demandes pour son volet national, le fonds de relocalisation de 600 millions d'euros qui doit servir à créer de nouvelles lignes de production stratégiques. La pharmacie est la première bénéficiaire, mais les 31 premiers projets annoncés concernent aussi l'agroalimentaire innovant, des compléments alimentaires ou de la nourriture à base d'insectes, et l'engouement est tel que, selon Bruno Le Maire, il sera probablement nécessaire de rapatrier une partie des crédits de 2021 sur 2020, tellement la demande est forte.
Et pourtant, 1 milliard d'euros pour les relocalisations, ce n'est jamais qu'un sur 100 milliards.
Eh oui, le calcul est bon, Tiffaine. L'objectif
Excellent.
A été qualifié. Tout à fait. Même si, en tout cas, l'objectif a été qualifié de prioritaire par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron au début du confinement. Ce sont effectivement 43 des 70 mesures du plan de relance qui sont à destination de l'industrie. Mais attention au trompe-l'œil, avertit notamment l'économiste Nadine Levrato dans plusieurs articles. Selon elle, l'écart entre les annonces et la distribution effective est important et le milliard prévu pour la relocalisation risque de manquer sa cible, voire d'être contre-productif, car d'une part, dit-elle, ce ne sont pas les industries les plus prometteuses qui sont les plus avantagées, ni les industries manufacturières, ni les marchés d'avenir de la transition écologique, mais bien l'électricité, l'extraction, la banque, et puis d'autre part, la baisse des impôts de production fragilise les collectivités, alors que les investissements locaux sont un moteur de relocalisation, poursuit-elle. Même scepticisme d'ailleurs de la part de la géographe Anaïs Voigilis. Certes, l'industrie génère 3 à 4 emplois pour un en usine, ce dont aucun autre secteur n'est capable, et la transition d'une production de masse, continue-t-elle, vers une personnalisation de masse, est un mouvement enclenché depuis quelques années, mais les freins structurels perdurent et on ne reverra pas en France d'usine avec 10 000 salariés, il n'y aura pas de Billancourt 4.0.
Alors Xavier, au-delà du plan de relance, est-ce qu'on saura contrer la désindustrialisation ?
Eh bien, on part de loin, car le paysage industriel, vous le savez, c'est peu à peu dépeuplé. L'industrie ne compte plus que pour 14% du PIB en France, contre à peu près 10 points de plus en Allemagne et au Japon. Elle ne crée plus qu'un cinquième des emplois. Et il y a un facteur cependant mondial favorable, l'augmentation des coûts de production en Asie qui entraîne depuis déjà 20 ans un mouvement de relocalisation. C'est le ralentissement de l'hypermondialisation dont parle l'économiste Helmut Mood. Mais la dépendance industrielle aux importations reste forte en France et les relocalisations n'y répondront que partiellement, car ce n'est pas le coût du travail humain qui est le frein principal. Les ouvriers de l'industrie sont mieux payés en Allemagne qu'en France. Ce sont les usines elles-mêmes et leur gestion. Ce sont les trois plaies détaillées par le journaliste Julien Dupont-Calbo dans Les Échos. Faible rotation du capital et du retour sur investissement lent donc, faible robotisation et faible impact sur l'emploi local en raison de leur internationalisation.
Choix industriel, des politiques ou des consommateurs, comment réintégrer les chaînes de valeur mondiale ?
Eh bien, depuis des années, là on le voit aussi, hein, depuis Arnaud Montebourg, les gouvernements identifient des secteurs privilégiés de relocalisation. Ils sont 5 dans la dernière version, de la mécanique de pointe aux matières premières dites essentielles. Quant à la demande, le cabinet PwC, par exemple, identifie 113 produits potentiellement relocalisables pour lesquels la demande locale se fait forte. Ce serait 115 milliards d'euros de biens qui sont aujourd'hui importés. Et puis la période donne lieu à une profusion d'avis et de conseils. C'est vrai, dans Les Échos, le PDG de Michelin pose ses 5 conditions. Dans Marianne, c'est le think tank Conférence Gambetta qui professe ses 10 recommandations, en soulignant chacun l'importance des régions, d'une coordination européenne et d'une formation de qualité. Mais ce sont aussi les entreprises qui doivent changer, écrit dans Les Échos toujours le directeur R&D de Huawei France, Merwan Deba. Selon lui, ce sont elles qui doivent s'ouvrir aux académiciens et aux chercheurs en leur permettant de baigner dans le double milieu et de faire de la recherche fondamentale, indispensable donc relocalisation scientifique, écrit-il, sous peine de revivre l'épisode du prix Nobel du CRISPR-Cas attribué à la Française Emmanuelle Charpentier, mais pas à la France qui se prive d'un brevet industriel et d'un marché d'avenir majeur. Alors Tiffen, vous reprendrez bien peut-être un électrochoc.
Pas tout de suite. Merci beaucoup Xavier Martinet. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho qui est à réécouter sur franceculture.fr.
You find love, it's like nothing else matters at all. All the noise on the street, well, it fades with the feel of it all. And this world's a crazy shade of blue, it's lost.
C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Auvin, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric. Demain, c'est avec un autre économiste, Yann Algan, que nous tenterons de retrouver confiance en l'avenir. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
As we get older, the years seem to flash by your